Le grand entretien. François Bunel.
C'est un écrivain à la fois incorrect et insoumis. Un écrivain qui agace, un écrivain qui fascine, un écrivain surtout qui possède un talent fou. Qui a réussi les best-sellers, comme disent les éditeurs, qui a connu des flops, comme disent aussi les éditeurs, qui a surtout écrit une quarantaine d'ouvrages, dont des romans fabuleux, d'autres un peu moins inspirés, qui sait manier le burlesque et le picaresque, l'élégiaque et le romantique, qui prend position aussi à travers des pamphlets qui ne ménagent personne, un écrivain qui part en guerre avec l'énergie d'un Don Quichotte moderne, un écrivain qui signe actuellement un livre formidable, premier volume d'un roman familial au ton, disons, particulièrement acide, grinçant, mais aussi drôle. Un écrivain, mais également, eh ouais, une rockstar. Ce gaillard qui n'a jamais utilisé son véritable nom aligne les pseudonymes en littérature, mais aussi en musique. 1969, son premier album s'intitulait « La devanture des ivresses ». Le deuxième, en 1971, s'appelait « Obsolète », tout un programme. Un tube underground, Chrysler, et puis le système de l'industrie du disque qui brise net une carrière. Tout cela est raconté, entre autres choses passionnantes, dans ce livre de sa vie intitulé « Zanzaro Circus » et publié chez l'éditeur.
Le grand entretien sur France Inter.
Jacques-Alain Léger.
François Bunel. Bonsoir Jacques-Alain Léger.
Bonsoir.
Ravi de vous recevoir. Comment allez-vous aujourd'hui?
Ma foi, on fait aller.
Ça veut dire plutôt bien?
Ça veut dire plutôt mal. Je suis dans une grande période de dépression, malheureusement, et j'essaie de faire avec.
Encore aujourd'hui, alors qu'il y a tout juste un mois est sorti Zanzaro Circus chez et l'éditeur,
oui.
Mais dont l'accueil, cette fois-ci, est comme pour déjouer vos prédictions, parfois alarmistes, Jacques-Alain Léger, est plutôt bon, non?
Oui, c'est un bon accueil, mais ça devrait suffire, mais ça ne suffit pas. Je suis content de ce qui se passe, mais je ne retrouve pas ma plume. Pour le moment, je la cherche. Je ne retrouve pas l'élan. Me fait écrire.
Alors vous le dites avec beaucoup de franchise, beaucoup de sincérité, comme d'ailleurs tout ce qui a trait à votre vie est tel que vous le racontez dans vos nombreuses autobiographies. Je ne sais pas d'ailleurs si on peut employer en ce qui concerne votre travail le terme autobiographie. Est-ce que c'est le mot qui convient, Jacques-Alain Léger?
Pourquoi pas, oui. En tout cas, je n'aime pas autofiction, qui me semble un mot ridicule. Donc pourquoi pas autobiographie, essai autobiographique, disons.
Essai réussi, essai transformé?
J'espère.
Vous parlez très franchement de ce que vous appelez votre dépression. Quand vous dites que vous n'avez pas retrouvé l'envie d'écrire, le souffle d'écrire, est-ce que vous savez à quoi il tient? Quand vous écrivez, écrivez-vous dans les phases maniaques ou dans les phases dépressives?
Dans les phases maniaques, j'écris. Et si je savais comment faire revenir ce miracle, ça serait gagné.
Et pourtant, voilà maintenant plus de 40 ans que vous écrivez, 40 livres, presque un par an.
Le temps ne fait rien à l'affaire. Oui.
Rien du tout?
Ben non, je crois que, au contraire, j'étais plus vivace, plus jeune, certainement. J'étais plus fou aussi. Et les crises duraient moins longtemps.
Cette folie dont vous parlez, c'était une folie constructive qui vous permettait de pouvoir écrire mieux, longuement?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, on ne sent pas la douleur. Pour moi, écrire est une joie. J'ai jamais compris les écrivains qui disent que c'est une souffrance, comme Marguerite Duras, par exemple, qui disait toujours la souffrance d'écrire. C'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Pour moi, c'est une jouissance.
Mais pourtant, là, vous le dites, vous n'y arrivez pas. Donc,
oui.
Vous devez
donc
peut-être
ça,
comprendre
c'est une
cette
souffrance. C'est une souffrance de ne pas écrire, mais pas une souffrance d'écrire.
Comment écrivez-vous quand vous écrivez? On va essayer de comprendre, parce que d'abord, vous êtes un écrivain protéiforme, avec énormément de capacité à changer de style parfois. Mais j'aimerais comprendre comment, lorsque vous êtes en train d'écrire, comment vous procédez?
Ben, c'est une joie, je me mets à ma table, il y a l'ordinateur depuis quelques années, et j'écris. Sans raturer, sans, presque pas raturé, presque pas à réécrire, presque pas relire. Ça vient. C'est une sorte de magie inexplicable, mais c'est un flux de jouissance, de plaisir. Et c'est le livre qui commande. Je n'ai même plus à diriger quoi que ce soit. Le livre s'écrit.
Vous en parlez comme quelque chose de bestial, presque de sexuel.
C'est sexuel, oui. C'est sexuel. Je peux faire une confidence, c'est que ça s'allie toujours avec des grands moments de puissance sexuelle. Je suis au sommet de ma puissance sexuelle en même temps que de ma puissance d'écrivain.
Est-ce que vous êtes conscient de cela au moment où vous écrivez ou c'est rétrospectivement que vous vous apercevez que vous êtes dans cet état ?
Non, j'en suis tout à fait conscient.
Qu'est-ce qui vous stimule lorsque vous êtes en train d'écrire ? Avez-vous besoin d'une musique ? Avez-vous besoin peut-être de prendre quelque chose ?
J'écoute un peu de musique. Je ne prends depuis près de 40 ans, je ne prends plus rien d'illicite.
Parce que vous l'avez fait quand même.
Je l'ai fait que très jeune, mais je ne prends plus rien d'illicite. Je bois un verre de vin ou plus, mais pas plus. Et voilà, et je suis bien.
Est-ce que l'inspiration existe, chacun l'a léger, ou est-ce que c'est une farce ? Est-ce que seul compte le travail, ou bien l'idée, l'inspiration, permet-elle d'écrire ?
Je suis bien obligé de dire que c'est l'inspiration, oui. Quand je me jette comme ça dans un livre à corps perdu, je me fais l'impression de ces skippers qui traversent les océans, et qui ne dorment plus que quelques minutes, et c'est mon cas, c'est-à-dire je ne dors plus, qui sont dans une sorte d'état second, et où tout glisse merveilleusement.
Pour filer la métaphore du skipper sur son bateau, est-ce que vous avez l'impression, quand vous écrivez, que vous vous affrontez aussi à des éléments qui peuvent vous engloutir ?
Ah oui, tout à fait. C'est en même temps, je me mets en danger. Enfin, j'y vais, je fonce, c'est un go fast, mais je sais que je me mets en danger, oui.
Quelle forme prend-il, ce danger ?
D'abord que ça casse, que tout d'un coup, le livre s'effondre. Ça m'est arrivé, certains livres commençaient comme ça et qui sont restés en plan. Le mât s'est cassé avant que j'arrive.
Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ?
Je les ai mis de côté. Et puis, il y a quelques années, j'ai publié sous le titre de « Aimer la guerre ». Je me suis rendu compte que ces départs de livres finissaient par former un livre. Et j'ai publié sous forme d'un livre.
Et dans ces cas-là, Jacques Alain Léger, évidemment, les critiques, ce qui aime bien, il faut le dire, malheureusement, vous tombez dessus, vous leur donnez aussi du pain béni. C'est-à-dire qu'on se dit, mais ça y est, on n'est plus dans le livre classique, académique. Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen, Jacques Alain Léger, de tendre un peu des bâtons pour se faire battre ?
Non, mais j'ai eu des livres plus paisibles, cela dit. Même s'ils étaient également écrits dans un grand moment de plaisir et de jouissance, j'ai eu des livres beaucoup plus ordonnés, beaucoup plus paisibles, dans lesquels la construction était beaucoup plus pensée, dans lesquels je ne m'abandonnais pas complètement. Avec Zanzaro Circus, je me suis abandonné complètement.
Vous l'avez écrit donc dans une période totalement libre, heureuse, ou alors mère calme, manie, mère très forte ?
Mère très forte et manie presque effrayante, enfin, au bord de la folie.
Quand vous dites au bord de la folie, ça veut dire concrètement quoi ?
Je ne dormais plus, je chantais à tue-tête, j'étais surexcité.
Ça explique donc cette prose qui ressemble avec des phrases qui parfois peuvent faire une page et demie, deux pages, une prose qui ressemble à un riff de guitare électrique ?
Oui, c'est ça, c'est une colère et c'est comme les riffs de Hendrix.
C'est-à-dire interminable, aussi assez expérimentaux.
Oui, et au bord de la dissonance, au bord du... toujours sur le point de craquer, de s'effondrer. Et je rattrape toujours au dernier moment la phrase. Je ne sais pas moi-même comment, mais...
Et pourtant, c'est toujours rattrapé.
Je repars ailleurs, oui.
Est-ce que, Jacques-Alain Léger, vos dépressions peuvent avoir avec la question de votre identité ? Parce que vous évoquez tout de même, à travers Zanzaro Circus, cette possibilité, les très nombreux pseudos que vous êtes forgés, Melmotte, Dashiell Hedayat, Paul Smail, Jacques-Alain Léger, qui est également un pseudonyme.
Oui.
Finalement, c'est quoi votre identité ?
J'ai certainement des problèmes avec mon identité. J'ai certainement... je ne vais pas faire de la psychanalyse vite fait, mais il y a eu un drame de l'enfance qui était la présence d'un enfant mort avant moi, qui a été l'enfant préféré. Et moi, je cherchais ma place, il fallait que j'aie ma place. Et c'était très difficile de trouver ma place. Et j'ai cherché par des masques à être moi. C'était une curieuse démarche, mais pour retrouver qui j'étais exactement, j'avais besoin de me masquer.
Et de vous affubler vous-même de pseudonymes. Vous vous appelez Bibi, vous vous appelez Zanzaro. Enfin, Zanzaro, c'est pas tout à fait vous, mais non. Vous reprenez à votre compte ce pseudonyme.
Oui, je reprends à mon compte.
D'où vient-il, Zanzaro ?
C'était une nounou italienne. Zanzara, en italien, c'est le moustique. Et donc, c'était juste le moustique. Et Zanzaro, elle en avait fait un masculin. Zanzaro, et j'étais Zanzaro.
Quand on connaît très tôt une certaine forme de succès, Jacques-Alain Léger, ou Zanzaro, est-ce qu'on n'arrive pas, malgré le masque, à tout de même se donner une identité ?
Oh, mais j'ai une identité, oui. Au-delà, mes livres sont très divers, mais moi, je reconnais l'écriture au-delà de toutes les diversités. Je ne veux pas paraître vaniteux, mais c'est comme Picasso. Il y a la période bout de ficelle, il y a la période bleue, il y a la période... Et érotique, il y a la période cubiste, il y a la période... Et tout ça, c'est quand même toujours du Picasso. Et ce que je cherche à dire, c'est que quoi qu'il arrive, c'est toujours du Léger.
C'est-à-dire que la période underground qu'on va peut-être écouter tout à l'heure, où vous signez Melmotte, des albums psychédéliques, expérimentaux, et qui aujourd'hui sont cultes hein, d'ailleurs, auprès d'une certaine génération, nous offre le même personnage que celui qui ensuite sera dans le picaresque, ou le polar potache, ou au contraire la description de la banlieue. C'est le même personnage.
Il y a un fond de moi qui est intouchable.
Indestructible aussi ?
J'espère.
On l'espère tous.
Oui.
What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I'd tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life, and I will never let a day go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly, and so I do, without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right, this love of mine, my Valentine.
Grand entretien de François Bunel sur France Inter.
En compagnie aujourd'hui de Jacques-Alain Léger qui publie Zanzaro Circus chez l'éditeur. Zanzaro Circus qui raconte à la fois l'itinéraire d'un écrivain qui n'a plus d'éditeur, l'histoire d'un rocker révolté underground qui n'a plus de label, l'éducation d'un drôle de loustique que Sanounou appelle donc, vous l'avez expliqué, Zanzaro, ses copains de classe La Grosse, et que lui-même appelle Bibi. C'est votre histoire, Jacques-Alain Léger, racontée sur un ton qui est à la fois clownesque et très vindicatif. Exemple, quand vous écrivez, page 85, « Vous voulez du roman familial, ami lecteur ? Lisez ce qui suit, vous serez servi. » Très bien. Est-ce que ce roman familial dit la vérité ?
Oui, le roman familial, c'est, ça ne dit pas la vérité, c'est une construction. Dans la théorie de Freud, le roman familial, c'est une construction qu'on fait après coup, avec des fantasmes, de déplacer la position de père, de la mère, de l'enfant. C'est de s'inventer un père qu'on n'a pas eu, ou bien penser que ses frères et sœurs ne sont pas du même père. Dans mon enfance, j'ai eu un roman familial comme ça, un moment de très grande détresse, parce que mon père m'avait en quelque sorte renié, de façon très légère, mais moi j'en avais fait une tragédie comme les enfants peuvent en faire une tragédie. Et je m'étais imaginé que mon père n'était pas mon père.
Quand vous le racontez dans Zanzaro Circus, c'est plus que de l'imagination. C'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment que vous l'avez vécu, que vous en étiez convaincu, voire même que c'était la réalité.
Oui, j'essaie de reconstituer à chaque fois dans le souvenir la densité, l'affect de ce souvenir.
Vous imaginez même que votre honorable mère aurait fauté avec le mari de sa meilleure amie.
L'ami de la famille, oui. Comme c'est toujours le cas. Je veux que le souvenir affleure, arrive avec la densité qu'il avait, avec la violence même, la violence de l'affect qu'il a, même dans les souvenirs d'enfance qui sont très violents.
Alors, puisque vous citez Freud, à mon tour de le citer, c'est ce que Freud appelait les souvenirs écrans. Oui. Mais pourquoi rester devant l'écran ? Pourquoi ne pas aller derrière la vérité ? Pourquoi ne pas le décortiquer et puis essayer, comme le font d'ailleurs beaucoup d'autres écrivains, de percevoir ce qu'était la réalité de ce souvenir ?
Mais là, il ne s'agit pas d'un souvenir écran, il s'agit d'un vrai souvenir. Je ne pense pas que ce soit un souvenir écran. Je pense que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et avec toute cette charge de caricature même, de violence et de infantile. J'ai voulu reconstituer l'infantilité de cet accident.
Vous annoncez avec Zanzaro Circus une autobiographie, un cycle autobiographique en plusieurs volumes.
Oui, parce que ce n'est qu'un morceau de mon passé, ce que j'ai donné ici. J'en ai des stocks et des stocks, j'ai des notes et des notes à n'en plus finir, j'ai des cartons pleins de ces notes.
Ça, je veux bien vous croire.
J'ai de quoi faire des...
Il me semblerait quand même que ce livre est assez capital pour tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la question des mémoires. Vous n'aimez pas le terme autofiction, mais disons autobiographie, ne serait-ce que par la façon dont vous avez en spirale conçu votre structure. Un mot, si vous voulez bien, avant de parler de la scène d'ouverture, un mot sur ce choix, parce que vous auriez pu commencer par le commencement, c'est-à-dire l'enfance.
Oui.
Or, pas du tout. Vous débutez par le récit d'une foire aux vanités, alors que vous êtes invité, déjà écrivain, chez Françoise Sagan.
Oui.
Et avant de revenir sur ce moment un peu croustillant, une question très simple. Pourquoi des mémoires en zigzag ?
Mais justement, j'ai voulu les faire, non pas ne pas faire une construction après coup qui reprendrait depuis je suis né le tel jour à telle heure à tel endroit, et ensuite qui serait chronologique. J'ai voulu que ça apparaisse comme ça apparaît dans la... Vous savez ce que Flaubert appelait la marinade, c'est-à-dire qu'on se met sur un lit et puis on se met à penser au passé. Et ça ne vient pas dans l'ordre, ça vient dans un désordre fou, c'est complètement foutraque, pour reprendre un mot préféré de Sagan, c'est foutraque. Et là aussi, les souvenirs sont foutraques, ils arrivent dans n'importe quel sens, dans n'importe quel ordre.
Pourtant, vous aviez déjà, Jacques Alain Léger, écrit sur vous, par exemple, 1982, entre autres, Autoportrait au loup, que je viens de lire, et qui est effectivement une passionnante introspection freudienne, littéraire. Vous évoquiez quand même beaucoup de choses, vous alliez très loin, vous parliez de votre maladie mentale, je cite, de votre mythomanie, je cite encore, de votre homosexualité, du suicide de votre mère, de votre grand-père, gourou dans une secte. Il y avait déjà énormément de choses. Pour quelle raison, aujourd'hui, un cycle autobiographique qui s'ouvre avec Zanzaro Circus? Qu'est-ce que vous n'aviez pas dit? Que cherchez-vous à creuser?
Mais on n'a jamais tout dit. Et Autoportrait au loup était un livre très pensé, très structuré. Et là, c'est le contraire. C'est-à-dire, ça va comme ça va.
C'est-à-dire que c'est vraiment parfois une éruption volcanique.
Oui, c'est...
Le ressentiment n'est pas toujours absent, hein, d'ailleurs, de votre...
Non, il y a du ressentiment, je l'avoue. C'est pas bien.
Est-ce que c'est utile? Il y a des pages qui sont terrifiantes, par exemple sur les maisons Grasset.
Sans doute pas.
Le 61 rue des Saints-Pères, pour ceux qui l'ignorent encore, donc c'est la maison Grasset. Le 61 rue des Saints-Pères, écrit Jacques-Alain Léger, c'est le Kremlin sous Staline, c'est le Vatican sous les Borgia. Belle formule.
Mais ce sont des colères, et quand on est en colère, on ne contrôle plus ce qu'on dit.
Est-ce que ces colères, Jacques-Alain Léger, n'ont pas fait de vous le provocateur dont tout le monde parle et qui, en fait, est assez éloigné de ce que l'on peut lire? C'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'il y a deux Jacques-Alain Léger au moins. Celui dont nous parlent les médias, qui ne vous aiment pas beaucoup, vous traitant de provocateur. Et puis celui dont on lit les livres, qui sont des livres... effectivement, c'est peut-être pas des livres faits pour la collection Harlequin. Mais enfin, c'est de la littérature. Et ça provoque pas plus que ça, finalement.
Mais oui, mais c'est l'énigme. J'ai jamais su pourquoi j'étais comme ça, rejeté. Au fond des choses, je suis un bon garçon, comme...
Vous n'avez pas fait tout pour être rejeté?
Non, franchement, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que c'est vraiment... à chaque fois, j'ai été effaré d'avoir provoqué par... Puisque vous parliez d'Autoportrait au loup, vous l'avez lu, vous n'avez vu aucune raison qu'on m'ait traîné dans la boue, comme on m'a traîné dans la boue avec des réflexions scatologiques que j'avais fait sous moi, que ce livre était un bruit de chasse d'eau ou des choses comme ça.
Non, aucune.
Il n'y avait aucune raison.
En même temps, Jacques-Alain Léger, vous le publiez en 1982, c'est-à-dire à une période contextuelle où peut-être que l'édition française n'est pas prête, en 1982, il y a donc maintenant quoi, 30 ans, à lire ce genre de choses.
Ben oui, mais c'est mon destin d'écrivain d'écrire ce que je dois écrire sans attendre que ce soit autorisé.
Et plébiscité.
Et félicité.
Et félicité.
Et félicité.
On va revenir, si vous le voulez bien, sur ces énigmes, parce qu'il n'y a pas qu'en littérature que vous êtes incompris, voire même parfois démoli. Ça s'est passé, ça a même presque commencé en musique. Premier roman aux éditions Bourgois, et puis ensuite 1969. En 1969, vous publiez votre premier album qui s'appelle La Devanture des Ivresses. Et alors, sur La Devanture des Ivresses, il y avait par exemple ce titre. Il faut quand même avouer, Jacques-Alain Léger, vous n'avez pas fait en sorte que ce soit facilement diffusable sur les stations de l'époque. Voici le blues interminable de la préposée au chalet d'aisance du bureau d'émigration. C'est le titre.
Son rouge, la voix pleurée en rang serré pour être au chaud. Les émigrés attendent cette heure. Couvre le bureau, émigration, bloque sous les verrières enfumées, bien corsetée, Madame Pipi. Remet un peu de rouge à lèvres.
Extrait donc du premier album de Melmotte. À l'époque, c'est votre pseudonyme. Pourquoi Melmotte?
Melmotte, c'est le personnage du roman de Mathurin, du grand roman gothique, qui a perdu son âme en échange d'une vie éternelle et qui cherche désespérément à ce que quelqu'un lui prenne son âme pour retrouver la vie avec la mort.
Bah quand même, vous le cherchez. Ce destin, en allant de vous-même trouver ce pseudonyme et choisir celui-ci.
Et Balzac a écrit Melmotte réconcilié, c'est-à-dire celui qui retrouve son âme en acceptant que la mort soit là.
Alors, lequel des deux a eu raison, Mathurin ou alors Balzac? Aujourd'hui, vous êtes réconcilié?
Ouais, je suis réconcilié, oui. J'ai abandonné ce nom qui était lourd à porter.
Dès le deuxième album, où cette fois-ci, vous devenez Dachiel et Dayat. Dayat,
oui.
Pour quelle raison?
Alors, Dachiel Ahmet, que j'aimais beaucoup, et Sadegh Hedayat, qui est un grand écrivain iranien, auteur de La Chouette Aveugle. Et La Chouette Aveugle est un livre qui m'a beaucoup frappé sur, là aussi, la vie, la mort.
On est en 1969, Jacques-Alain Léger. À l'époque, vous avez publié donc un premier roman, passé, hélas, un peu inaperçu aux éditions Bourgois. Et puis, ce disque, La Devanture des Ivresses, qui reçoit quand même le grand prix de l'Académie Charles Cros, c'est-à-dire la consécration pour les jeunes talents. Julien Clerc, là également, la même année. Pour quelle raison cet album n'a-t-il pas été le succès qu'il aurait dû être?
Ça, c'est très simple. C'est le métier qui l'a refusé. C'est-à-dire, c'était un petit label et qui était distribué par l'énorme multinationale qui est CBS. Et CBS a demandé à écouter les paroles une fois que j'ai eu le prix. Ils ont été tellement horrifiés qu'ils l'ont fait retirer des bacs et qu'ils l'ont annulé, le disque.
Dans quel état étiez-vous à cette époque-là?
Fou de rage.
Quand vous dites, évidemment, ils n'ont pas supporté les paroles, c'est qu'on était là encore dans une forme de provocation.
On était au lendemain de 68 et il y a eu une sorte de reprise en main idéologique très forte.
Y compris des médias.
Y compris des médias au lendemain de 68. Il fallait que plus rien ne dépasse.
Pour quelle raison avez-vous persisté dans cette voie, c'est-à-dire aller du côté de ce qui, de toute façon, vous plaçait dans ce qu'on appelait l'underground?
Je trouvais que c'était plus amusant que ce qui est que la scène française un peu plan-plan à l'époque. Et donc, je me tournais vers ce qui avait de la vie. C'est-à-dire, c'était à Londres que ça se passait. C'était à New York avec la bande à Warhol. C'était chez les beatniks. C'était... Il y avait plus de vie, plus d'invention, alors que ce qui se faisait en France me semblait extrêmement conventionnel.
Preuve, et preuve par l'exemple, si vous voulez bien, cette fois-ci on se l'écoute en entier. 1971, deuxième album, et je crois que vous l'avez écrit en 69, l'album est tout rose, et dessus, il y a une Chrysler.
Tout au fond de la cour, elle ne peux plus rouler, mais c'est là que je fais l'amour. Oui, Chrysler. Alors, je sais pas si je vous ai dit, j'ai une Chrysler Rose. Le levier de vitesse porte un cœur gravé. Il y prend les bas troués. Et ça dit au moment monté, me dit, ta Chrysler elle est foncée. Oui, mais on est tous des Français. Chrysler, Chrysler, oh, oui, Chrysler. Et Sally me dit, le levier de vitesse en moi. Non, c'est moi. Chrysler, Chrysler, oh, fond de la cour.
La Chrysler rose de Jacques-Alain Léger, enfin en l'occurrence de Dashiell et Dayat. À l'époque, vous aviez envie de devenir écrivain ou musicien ?
Ah non, j'étais toujours écrivain, j'étais d'abord écrivain.
Donc et cet album obsolète, finalement, il arrive comment ? Comment se fait-il que tout à coup, musique, ça soit ça qui vous fasse connaître ?
La musique était un plus, mais c'était pas. Mais j'ai compris très vite que je n'avais pas une technique suffisante pour être un grand artiste en musique. Je suis allé donc vers l'écriture. Où j'étais déjà, je commençais à écrire des livres, j'avais 12-13 ans, des choses n'importe quoi, mais c'était des pièces de théâtre qui avaient 12 actes. Et j'étais écrivain et la musique est venue en plus. Et j'ai besoin de la musique, c'est pour écrire, j'écoute de la musique par exemple.
Mais est-ce que vous en composez encore ? Là, ce qu'on vient d'entendre date de 1971.
Non, je ne compose plus, plus du tout.
Quelques années plus tard, 1976, Jacques-Alain Léger, c'est l'année de la consécration, on va dire médiatique, peut-être aussi financière, puisque c'est la publication de Monsignor aux éditions Robert Laffont. Et alors là, 300 000 exemplaires, 23 traductions, une adaptation au cinéma. Vous racontez d'ailleurs dans Zanzaro Circus dans quelles circonstances, tout à coup, vous êtes propulsé.
Oui, j'ai été propulsé, c'était un rêve de jeune fille midinette. Tout d'un coup, je me suis retrouvé invité à Londres dans des grands palaces. Il y avait des limousines, il y avait tout le côté Hollywood, absolument ridicule aussi, si on y pense bien. Mais c'était une revanche extraordinaire parce que le livre avait été refusé par Grasset. Et donc, c'était la revanche de ce qui venait de se passer, qui m'avait beaucoup humilié.
En l'occurrence, Françoise Verny, qui était la grande papesse à l'époque de chez Grasset, c'est vous demandait de couper.
Non, là, c'était pas coupé, c'était carrément, elle n'en voulait pas du tout celui-là. Elle voulait couper quand elle s'est retrouvée chez Gallimard et moi aussi. Malheureusement, je suis retombé sur elle. Et elle voulait que je coupe 300 pages au début ou à la fin de Van der Weg. Van der Weg, c'est un livre qui se passe sous l'Allemagne nazie, l'histoire d'une famille dans la tourmente nazie. Et je ne voyais pas comment couper 300 pages avant ou après. Ce livre était extrêmement construit, extrêmement bien fait.
Est-ce que c'est un livre qui a marché autant que Monsignor ?
Non, malheureusement.
Alors, est-ce qu'elle n'avait pas raison de vous demander de couper un tout petit peu ?
Non, non, ce n'était pas un tout petit peu.
Bah, 300 pages.
C'était pour un livre de 600 pages, ça fait beaucoup. Et non, non, elle avait tort. Et le livre a été mal reçu au départ. Ça a été le silence absolu. Il y a eu comme une cabale du silence. Et c'est seulement... il est sorti en septembre. C'est seulement en janvier qu'il y a eu deux articles très bons. Et c'est seulement après que j'ai eu le Grand Prix des lectrices de Elle avec ce livre. Donc ça a un peu rattrapé la déception immense que j'avais eue.
Vous parlez souvent, hein, Jacques-Alain Léger, de cabale, cette fois-ci la cabale du silence, parfois c'est la cabale de certains dévots sur notamment les pamphlets. Il faut dire que vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, hein. Vous mêlez les islams ophilophobes et l'islam tout court dans un panier qui est à peu près le même, on va dire, pour faire simple. Enfin, je crois qu'on ne fait pas beaucoup de raccourcis en disant cela. Vous aimez beaucoup aussi jouer avec ceux qui, à un moment ou à un autre, peuvent vous tomber dessus. Par exemple, ces pseudonymes, tous ces pseudonymes. Pourquoi n'avoir pas finalement choisi de conserver un nom lisible. Jacques Alain Léger, par exemple, celui qui vous faisait triompher. Vous avez inventé Ève de Saint-Roch, vous avez inventé Paul Smaïl.
Ève Saint-Roch, c'était juste un livre de plage écrit comme ça pour l'été.
Pour gagner de l'argent ?
Pour gagner de l'argent, je le dis franchement. Et c'était très bien fait, c'était très amusant, mais c'est tout.
Et vous avez gagné beaucoup d'argent avec ça ?
Non.
Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui ?
De ne pas gagner d'argent, oui.
Oui, mais d'avoir publié des livres pas forcément géniaux alors que vous êtes un très bon écrivain ?
Non.
Sous des pseudos fantaisistes ?
Je ne regrette rien. Non. Je ne regrette pas. Paul Smaïl, je ne regrette pas. C'était une aventure extraordinaire.
Alors, c'est vrai que c'est une aventure incroyable. 1997, on voit arriver un livre intitulé « Vivre me tue » que l'on prête à ce narrateur, c'est-à-dire un jeune Français d'origine marocaine qui a un DEA de lettres, je crois, qui cite Melville, Jean Genet, très cultivé, et qui raconte de l'intérieur la vie dans une banlieue. Il est, je me souviens,
c'est à Barbès.
À Barbès, oui. Et il travaille dans un hôtel qui est un hôtel de passe.
Un hôtel de nuit, oui. Un hôtel de nuit, il est gardien de nuit dans un hôtel et il raconte sa difficulté à vivre. Ça a été formidable de voir tous ceux qui me brachaient dessus trouver ça génial, par exemple. C'était une joie profonde.
Le livre sort sous le nom de Paul Smaïl. Personne ne connaît Paul Smaïl, personne ne sait qui c'est. Il ne se montre pas, ce Paul Smaïl. Voilà. Et on apprend des mois plus tard que Paul Smaïl est Jacques Alain Léger.
C'était très longtemps après, oui. Enfin,
ça a dû énerver pas mal de gens qui trouvent Jacques Alain Léger complètement nul et qui ont adoré Paul Smaïl, non ?
Voilà, alors ceux qui me crachaient dessus et qui ont encensé ce livre, quand ils ont su la vérité, ça a été terrible.
Pourquoi avez-vous fait ce coup à la Gary Ajar ?
Mais je ne fais pas les choses en les pensant longtemps. C'est comme ça, ça arrive un matin. Je dis, bah, tiens, je vais écrire ça. Et puis, je vais donner le nom du héros. Ça sera le nom de l'auteur. Je n'ai pas réfléchi 3 heures pour ce que j'allais faire. Et c'est un de ces livres qui sont venus très vite, comme ça. Un livre donné, sans que j'aie à y réfléchir, sans que j'aie à le travailler.
Qu'appelez-vous un livre donné ?
Un livre donné, celui sur lequel on n'a pas à travailler. Celui sur lequel il suffit d'écouter ce qui est dicté, quoi.
Vous êtes dans un état de grâce à ce moment-là, c'est ça ?
C'est ça, exactement ça.
Vous avez écrit une quarantaine de livres, c'est arrivé combien de fois cet état de grâce, Jacques Alain Léger ?
Oh, une bonne quinzaine de fois.
Quand même ?
Au moins.
Comment vient-il ? Est-ce qu'il y a une manière de l'appeler, la grâce, ou est-ce qu'il faut juste attendre ?
Non, il faut juste attendre, ça vient. On ne sait pas pourquoi, un matin, c'est comme ça. Plus rien ne compte, et on ferme toutes les fenêtres et on s'y met.
Est-ce que lorsqu'on s'y met, on doit être dans un état de solitude ?
Oui, bien sûr. Il n'y a plus rien de compte. Les autres n'existent plus. Il y a un dialogue avec le livre.
À quel moment savez-vous que vous devez arrêter avec une série ? Par exemple, Paul Smaïl, il y a eu « Vivre me tue », puis vous avez continué à « L'île magnifique », qui a été la suite.
Oui, mais je considère qu'à « L'île magnifique », c'est peut-être mon plus grand livre. C'est un torrent, et c'est verbalement, c'est d'une invention comme dans aucun de mes autres livres. C'est pour moi un de mes grands livres.
Vous dites verbalement il y a de l'invention, c'est aussi une définition que vous proposez de la littérature, que l'on retrouve dans Zanzare au Circus, finalement une définition de ce que peut être un projet littéraire. Pour vous, la littérature, qu'est-ce qu'elle dit ? Comment se fait-elle ?
Waouh ! Vous voulez répéter la question ?
Vous avez une sacrée ambition, Jacques Alain Léger. Quand vous dites « c'est mon plus grand livre » parce qu'il y a une invention qui est effectivement une invention langagière. Pour vous, la littérature doit être quoi ? Quel est son rôle ?
Je ne sais pas quoi vous répondre, très franchement.
Est-ce que ça passe par exemple par le fait d'inventer une langue qui n'a pas été utilisée jusqu'à présent ? Cette espèce de débit torrentiel, parfois du reste en empruntant à d'autres écrivains, car... Je ne sais pas, c'est d'ailleurs très amusant, mais enfin, vous amusez beaucoup à piquer sans guillemetter,
oui.
Puisque vous aimez bien ce verbe, sans mettre les guillemets, et recycler des citations que nous sommes supposés connaître et qu'en fait nous avons tous oubliées.
Tout à fait, mais il y a un dialogue. Écrire, c'est dialoguer avec tout le reste de la littérature.
Expliquez ça à un avocat et vous dira, ça s'appelle plagier.
Non, c'est dialoguer, enfin, plagier. Je veux dire, c'est se mettre... J'écris parce qu'il y a eu des écrivains. J'écris pas parce que j'ai une peine de cœur ou que j'ai envie de changer le monde. J'écris parce qu'il y a eu de la littérature. C'était Malraux qui disait « Cézanne ne peint pas des pommes parce qu'il y a des pommes, il peint des pommes parce qu'il y a eu des peintres avant qui ont peint des pommes ». Et c'est la même chose, c'est-à-dire que j'écris parce que Stendhal, parce que Balzac, parce que Proust, parce que etc., etc.
Et quand vous prenez certaines de leurs phrases et que vous les intégrez à une des vôtres, généralement très longue et torrentielle, que cherchez-vous à faire? C'est une forme de jeu avec le lecteur?
Oui, mais je le fais rarement.
Oh, 2-3 fois quand même.
2-3 fois dans un zarro, mais c'est tout.
Il faut que ce soit reconnu. C'est une forme d'appel.
C'est un clin d'œil, oui. Ouais. Mais je m'autocite beaucoup. Dans tous mes livres, il y a des phrases qui appartiennent à des précédents livres.
À quoi ça correspond? C'est ça que j'aimerais bien comprendre. Vous êtes l'un des rares, voire le seul écrivain français à agir ainsi. 40 livres qui se répondent, qui se prolongent l'un l'autre.
Ben, c'est l'ambition de faire une œuvre. Et comme je vous disais tout à l'heure à propos de Picasso, je vais recommencer, ça va être vaniteux une deuxième fois.
Les périodes.
Tant pis, mais ce sont les périodes.
Là, vous êtes dans quelle période, par exemple?
Nul.
Non, mais là, aujourd'hui, parce que vous êtes déprimé, mais dans le moment actuel, c'est-à-dire le moment où vous venez de lancer quand même la première pierre d'un cycle formidable.
Je veux retrouver dans les livres qui vont suivre, et quand je m'y remettrai, je veux retrouver le ton de Zanzaro Circus.
Vous avez déjà écrit des bribes, puisque vous nous annoncez les 7 prochains volumes.
Des petits morceaux, oui. Des petits morceaux qui sont ici ou là. Mais je sais que le jour où ça viendra, je n'aurai pas à réfléchir.
L'œuvre dont vous parlez, jusqu'où est-elle pensée? Vous disiez tout à l'heure, en ce qui concerne un pseudonyme, bon, je ne réfléchis pas 3 heures, mais en même temps, là, vous nous donnez le plan avec un deuxième volume qui s'appellera « Les entractes ont été trop longs », un numéro 3 que vous avez baptisé « Le gris de la griserie, le rose du mot rose », un numéro 4 s'appelle « Me, myself and I », etc., etc.
Etc.
Donc, ça veut dire que vous avez planifié votre œuvre? Jusqu'où?
Je n'ai pas planifié, vraiment. J'annonce des titres. J'annonce des titres et il y aura bien quelque chose sous ces titres. Les entractes ont été trop longs, c'est vraiment la constatation que je fais de ma vie. C'est-à-dire, les entractes de la maladie ont été trop longs. C'est une phrase de Sade qui disait « Dans ma vie, les entractes ont été trop longs ». Les entractes de la maladie ont été trop longs par rapport au bonheur de l'écriture.
Vous avez choisi, Jacques-Alain Léger, de venir avec un livre et avec... une musique, la musique, la voici. Ah, on parle dans le cinéma, Nino Rota.
Nino Rota.
Pourquoi Nino Rota?
Je vais vous dire, j'ai choisi le final de 8,5. Je pensais beaucoup à ce final de 8,5 quand j'écrivais Zanzaro Circus. C'est-à-dire qu'à la fin du. Dans 8,5, l'artiste n'arrive pas à faire son film, il n'arrive pas à écrire. À la fin, tous les personnages qui l'ont hanté dans son enfance. Tous les personnages de l'enfance se retrouvent sur une passerelle et il y a un enfant qui joue de la flûte et qui est celui qui mène le jeu, qui est une sorte de Zanzaro. Et je pensais beaucoup à cette musique quand j'écrivais le livre.
C'est vous l'enfant qui joue de la flûte?
Oui. Thank you.
Voilà, le joueur de flûte est avec nous, Jacques-Alain Léger. Vous vous retrouvez dans ce personnage qui emmène avec lui...
Tous les fantasmes, les personnages de son enfance, la mère, la putain, etc.
Il mène la danse des personnages de son enfance, mais où les emmène-t-il ?
Ah ça, on ne sait pas, ça tourne en rond.
Mais vous, vous les emmèneriez où ?
Je ne sais pas non plus.
Quand on a programmé comme ça les 6 prochains volumes de son autobiographie, Jacques-Alain Léger...
Je ne sais pas où je les emmène. Il faut qu'ils suivent, c'est tout. Ils n'ont rien à dire, ils n'ont pas leur mot à dire.
Que lisez-vous, Jacques-Alain Léger ?
Je viens de lire un livre étonnant qui s'appelle « La folie Baudelaire ». C'est de Roberto Calasso. Ce n'est pas une biographie de Baudelaire. C'est un livre dans lequel il cherche vers des correspondances subtiles dans des petits faits de la vie de Baudelaire, dans des lettres, dans la visite des musées, des salons, des expositions. Et il commence à tisser tout ça. Et c'est d'une érudition prodigieuse, mais ça n'a aucun aspect pédantesque. Et il dresse un portrait de Baudelaire qui je trouve magnifique. Et la folie Baudelaire, parce que Sainte-Beuve, qui n'en ratait pas une, dit que tout au bout du parc qu'est le romantisme, il y a dans un endroit perdu une maison de briques et de broc dans laquelle un quasi-fou fait à peu près n'importe quoi. Et on appellera ça la folie Baudelaire.
Oui. Quand Sainte-Beuve écrivait cela, évidemment, c'était méchant. Mais finalement, c'est peut-être le plus bel éloge qui soit de Baudelaire.
Oui, absolument. Il ne se rendait pas compte.
Fou, contre son temps, excentrique, avant-gardiste.
Il ne se rendait pas compte qu'il lui faisait un grand hommage.
Est-ce que les critiques qui vous ont massacré au fil des décennies, finalement, ne vous servent pas en réalité, Jacques-Alain Léger ? Non, rendant un hommage semblable à votre œuvre.
Non, je trouve que les critiques négatives ne servent à rien. Les critiques positives peuvent un peu aider à voir quelque chose. Mais les critiques négatives servent à rien qu'à abattre.
Là, vous en avez beaucoup ?
De critiques, mais
positives.
Elles sont positives, oui.
Ouais. Bon, vous êtes persuadé que ça n'aidera pas à guérir de cette maladie ?
Mais j'espère, mais... J'espère, mais je ne vois pas la fin. Mais qui sait, peut-être demain matin, je vous dirai le contraire.
Bah, j'espère bien que vous nous disiez le contraire demain matin. Franchement, on attend avec impatience la suite, Jacques-Alain Léger. Je renvoie à la lecture de ce livre formidable, Zanzaro Circus, et puis de toute l'œuvre de Léger. Parfois, très difficile à trouver en librairie, je m'en suis procuré un, mais alors sur les quais, complètement par hasard.
On les trouve sur Amazon.
Allez, coup de pub. Merci beaucoup, Jacques-Alain Léger. De grand entretien, merci à Anne Kobilac pour la réalisation, Thierry Dupin pour la programmation musicale, Vanina Scalia, Grégoire Louis pour la préparation de cette émission, Loïc Frapsos et Frédéric Boeuf à la technique.
Merci à vous François Bunel pour cette rediffusion de votre grand entretien avec Jacques-Alain Léger daté du 6 février 2012. Les grands entretiens de François Bunel, c'est tous les jours de la semaine dès 17h sur France Inter. Demain mardi, François Bunel vous propose une rencontre avec Andrei Makine. Mercredi 27 mars avec Jean-Jacques Benex. Jeudi 28 mars, un grand entretien à ne pas manquer en compagnie de Dustin Hoffman. Et pour conclure cette semaine, François Bunel reçoit vendredi 29 mars le journaliste romancier Tom Wolfe à l'occasion de la parution chez Robert Laffont de son dernier livre « Bloody Miami ».